Alors, c'est le moment de l'interview scientifique. Nous recevons aujourd'hui un spécialiste des forêts tropicales. Bonjour, monsieur Plignociste.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'unité de recherche forêt et société au CIRAD de Montpellier.
Alors, c'est exact.
Face à vous, on a de jeunes scientifiques et élèves de 3e. Ils ont travaillé sur le thème de la forêt. C'est le point de départ, en fait, étant la création d'une micro-forêt au sein du collège. Alors, merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation et surtout pour nous avoir partagé une de vos publications sur l'exploitation des forêts tropicales, et ceci afin de préparer au mieux cette interview. Alors, on a une toute première question qui va vous être posée par Jied.
Bonjour, monsieur Sist. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ?
Alors, comme vous l'avez dit dans l'introduction, je suis directeur d'une unité de recherche, CIRAD. Le CIRAD est un centre de recherche agronomique pour le développement. Nous travaillons principalement pour les pays du Sud, dans le domaine de l'environnement et de l'agronomie. Et le CIRAD, qui rassemble environ 1600 personnes, est organisé en unité de recherche. Et donc moi, je dirige l'unité de recherche forêt et société, qui réunit une quarantaine de chercheurs, qui s'intéresse aux interactions entre les usages, l'exploitation des ressources forestières faites par les populations humaines et la conservation de ces forêts. C'est-à-dire comment penser des pratiques de gestion durable des forêts tropicales au bénéfice de ces populations.
Très bien. La prochaine question est toujours posée par Jied et plus générale sur la diversité et le rôle des forêts tropicales.
Pourquoi les forêts tropicales sont-elles si importantes pour le climat mondial ?
Alors, les forêts tropicales, c'est la moitié de nos forêts mondiales. Donc, c'est environ 2 milliards d'hectares. C'est un peu plus de 2 milliards de terrains de football. Et ce sont des écosystèmes terrestres les plus riches en espèces. Il n'y a pas d'écosystème sur Terre qui soit plus diversifié que les forêts tropicales. Elles jouent donc un rôle de réserve génétique et de diversité unique. Pour vous donner un exemple, sur un hectare, c'est-à-dire 100 mètres sur 100 mètres, on a recensé en Amazonie, au pied des Andes, plus de 300 espèces d'arbres à partir de 10 cm de diamètre. Vous donner une idée de grandeur, en France, sur un même hectare, si on a 10 espèces d'arbres, c'est déjà pas mal. Ça vous donne un petit peu l'idée de la diversité des forêts tropicales, et je ne parle que des arbres. Si on parle des plantes, des lianes, des épiphytes, mais également des animaux, des insectes, là, on a une biodiversité qui est encore plus importante. Mais aussi un rôle dans le stockage de carbone, c'est-à-dire qu'elle permet d'absorber une partie des émissions de CO2 mis par nous, par les humains. Et donc, elle joue ce qu'on appelle le rôle de puits de carbone parce qu'elle absorbe le CO2 et elle rejette de l'oxygène qui nous permet à nous, humains et aux animaux, de respirer.
Très bien, merci. Nous allons essayer aussi de comprendre les conséquences de l'exploitation de ces forêts avec les prochaines questions. Lina avait deux questions pour vous.
Qu'est-ce que l'exploitation sélective des forêts tropicales et en quoi est-elle différente de la déforestation ?
Alors, c'est une très bonne question parce que beaucoup de personnes pensent que exploiter la forêt pour son bois signifie qu'on coupe tous les arbres. En fait, comme je l'explique dans mon essai qui est paru chez Quai, l'exploitation forestière en milieu tropical consiste à prélever quelques arbres à l'hectare. Donc sur un hectare, typiquement en forêt tropicale, on a 450 et 600 individus. On ne prélève que entre 4 et 10 arbres. Alors, ça dépend des régions. En Afrique, c'est moins que ça, c'est souvent 1 à 2 arbres à l'hectare. En Amérique latine, c'est plus de l'ordre de 6 à 7. Et c'est en Asie où on prélève le plus grand nombre d'arbres à l'hectare, entre 7 et 10. Et donc, lorsqu'on coupe ces arbres, qui sont en général des arbres de diamètre relativement important, puisque la possession consiste à prélever qu'une partie des plus gros arbres qui ont une valeur commerciale, donc typiquement, c'est à partir de 50 à 60 cm de diamètre. En Afrique, c'est plutôt à partir de 80 cm. Et bien, quand on abat ces arbres-là, quand ils tombent, ils font bien sûr des dégâts. On ouvre des routes et des pistes de débarnage qui font des dégâts. Mais la forêt, après cette exploitation, si on lui laisse le temps, se régénère relativement bien et relativement vite. Alors, quand je dis vite, bien sûr, à l'échelle de la vie d'un arbre, c'est-à-dire à l'échelle de 50 à 60 ans. C'est pour ça qu'on appelle l'exploitation des forêts tropicales une exploitation sélective, dans le sens qu'on exploite qu'une partie minime des arbres constitue la forêt tropicale. En fonction des pratiques d'exploitation, on va perturber plus ou moins la forêt. L'exploitation n'est pas la première cause de la déforestation. Elle est une cause de dégradation. si l'exploitation est mal faite, mais elle n'est en aucun cas la cause de déforestation.
Lina, tu avais une deuxième question?
Comment peut-on concilier exploitation des forêts et préservation de la biodiversité?
Eh bien, c'est toute l'essence du travail de mon unité. Il faut d'abord comprendre quels sont les objectifs de l'exploitation, ce que les populations locales veulent exploiter, et ensuite, justement, mener des recherches pour mieux comprendre quels sont les impacts de l'exploitation sur la régénération de la forêt, sur la biodiversité, comment la forêt se reconstitue après cette exploitation, quelles espèces sont favorisées, quels risques y a-t-il à perdre certaines espèces plus fragiles parce que en très faible densité. Et donc, c'est un travail de longue haleine, parce qu'on travaille sur des êtres vivants qui, en milieu tropical en tout cas, ont en moyenne entre 300 et 500 ans à l'âge adulte. Hein. Certaines espèces peuvent dépasser même 1000 ans de longévité. Et donc, c'est des cycles très très longs qui est une contrainte pour nous parce que on doit travailler sur le très long terme. Alors, pour mieux, comment dirais-je, évaluer l'impact à long terme, bien sûr, on ne va pas attendre 500 ou 600 ans, mais on met en place des parcelles permanentes de suivi après exploitation, par exemple, où là, on mesure régulièrement, tous les ans, voire tous les 2 ans, les arbres des parcelles pour voir comment ils poussent, quels sont les nouveaux arbres qui installent. Et grâce à ces données de plus ou moins long terme, on a des dispositifs qui existent depuis plus de 50 ans maintenant. Grâce à ces données sur le long terme, c'est un peu comme le climat, ça nous permet de faire des projections, des simulations et de voir ce que cette forêt pourrait devenir au bout de 50, 60, 100 ans. Et grâce à ces données, on essaye de, justement de faire des recommandations d'exploitation. Alors c'est par exemple, on recommande une certaine intensité d'exploitation. Dans certains cas, lorsque la législation forestière permet par exemple d'exploiter, je ne sais pas, 6 arbres à l'hectare, eh bien parfois, nous, nos recommandations, c'est de limiter l'exploitation à 3 arbres à l'hectare. Et au lieu de revenir tous les 30 à 40 ans, revenir tous les 50 à 60 ans. Donc c'est ce genre de recommandations qui sont sur la base de résultats scientifiques qui est le cœur de notre travail au sein de l'unité forêt-société.
Merci. Iris avait une question supplémentaire.
Pourquoi les forêts tropicales disparaissent-elles encore aujourd'hui malgré les alertes des scientifiques?
La première cause de déforestation, c'est l'agriculture, c'est-à-dire qu'on coupe les forêts pour installer soit du pâturage, soit des plantes vivrières, soit des plantes comme le palmier à huile ou l'EVA pour faire du caoutchouc. Donc c'est 80% des cas, c'est la déforestation. C'est un peu l'histoire de l'humanité. On défriche pour nourrir sa famille, nourrir son pays. Le souci, c'est que sous les tropiques, les sols, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont très peu fertiles. La forêt tropicale recycle très très vite les sels minéraux. Et donc, il n'y a pas d'accumulation comme on a chez nous d'humus en forêt tropicale. Et donc, une fois qu'on a enlevé les arbres, eh bien, cette fertilité, avec le temps, avec la pluie, avec l'érosion, ne se reconstitue pas. Et au bout de 4-5 ans, finalement, votre parcelle agricole ne produit plus parce que elle a épuisé toute la fertilité du sol. Et donc, on avance constamment sur la forêt parce que la forêt est la garante un petit peu de la fertilité du sol.
Nous parlons rarement dans la problématique de l'exploitation des forêts des populations locales. Iris, il y avait une autre question par rapport à ce sujet-là.
Oui. Quel rôle jouent les populations locales dans la gestion des forêts tropicales?
Alors aujourd'hui, les populations locales, depuis maintenant plusieurs décennies, revendiquent de plus en plus leur droit à exploiter elles-mêmes leurs forêts, plutôt que de faire des concessions qui seraient exploitées par des privés, concessions dans lesquelles vivent les populations locales. Ces populations locales demandent justement le droit d'exploiter leurs forêts. J'aime bien prendre le cas, par exemple, du Guatemala. Dans le nord, existe une zone qu'on appelle la réserve Maya, qui est couverte de forêts. Cette forêt est exploitée par des communautés de descendants mayas. Mayas, c'est les populations originales de l'Amérique centrale qui existaient avant l'arrivée des Espagnols. Donc, ces descendants qui vivent dans cette forêt depuis la nuit des temps exploitent leur forêt depuis plus de 30 ans. Et c'est la seule zone qui encore est couverte de forêt. Tout autour, c'est de l'agriculture plus ou moins intensive, notamment de pâturage. Et ces populations qui, depuis 25 ans maintenant, exploitent ces concessions forestières, exploitent de façon industrielle, ils ont une scierie, ils exportent les boissiers en Amérique latine, en France, aux États-Unis, en France, notamment Leroy Merlin est un de leurs acheteurs. Et en plus du bois, ils exploitent également des produits forestiers non ligneux. On appelle ça, c'est dans notre jargon, des produits de la forêt qui ne sont pas du bois. Alors, ça peut être des animaux, ça peut être des plantes pour faire des parfums, pour faire des crèmes, des savons. Et dans le cas du Guatemala, ils exploitent un petit palmier de sous-bois où ils récoltent des feuilles qu'ils envoient directement aux États-Unis pour servir d'ornement pour la confection florale des bouquets floraux. Et donc, j'aime bien donner cet exemple parce que c'est vraiment un exemple où les populations locales se sont prises en main, pour lesquelles l'exploitation forestière durable est un facteur d'émancipation de ces populations.
Très bien, merci. Alors, on a deux dernières questions afin de conseiller les jeunes auditeurs pour s'engager vers la protection des forêts et peut-être pour travailler plus tard dans ce domaine de recherche.
Comment les jeunes peuvent-ils s'engager pour protéger les forêts tropicales ?
Alors déjà, il faut raisonner à l'échelle mondiale, hein. Il faut protéger les forêts. Mais il ne faut pas, je pense, avoir une vision, comment dirais-je, simpliste. On a tendance en France à penser que les forêts, c'est un écosystème que l'on n'exploite pas et qui est propice à la promenade, à la randonnée. Les forêts françaises, comme les autres forêts tempérées, sont d'abord des systèmes de production. Et donc, il faut avoir une vision de conservation à travers une gestion durable de ces massifs forestiers. Et c'est valable autant pour les forêts tropicales que pour les forêts tempérées. Je pense qu'il faut vraiment promouvoir, penser la gestion forestière comme facteur de conservation des forêts. Bon, vous êtes encore jeune et vous allez bientôt voter. On a la chance d'être dans des démocraties et c'est à travers le vote que l'on peut également exprimer nos convictions, nos opinions. Et je pense qu'à travers le vote, il faut absolument promouvoir les responsables politiques qui mettent le changement climatique au cœur de leurs actions politiques. C'est, je pense, un enjeu crucial pour notre survie.
Et il y a une dernière question.
Quel conseil donneriez-vous à un élève qui souhaite faire votre métier ?
Ah, plusieurs. D'abord, il faut vraiment être passionné pour faire ce métier. Il faut, je pense, être un petit peu aventurier parce que on va dans des endroits parfois très très isolés, sans internet, sans la 4G, sans et donc être proche de la nature. Et puis la troisième qualité qu'il faut avoir, c'est vraiment la persévérance parce que ce sont des études assez longues. Pour être chercheur, il faut une thèse de doctorat, donc c'est 8 années après le bac. Beaucoup de sacrifices que l'on accepte de faire parce que on aime son métier, on aime ce qu'on fait.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Bonne question. J'ai toujours été attiré par déjà les tropiques et les pays du Sud. Et puis, lors de mon BEA, alors maintenant on dit master, j'ai découvert la Guyane française. J'ai été immergé tout de suite dès mon arrivée dans un campement en plein milieu de la forêt guyanaise. Et c'est là où j'ai compris que je voulais faire ce métier.
Bon, mais très bien. Nous arrivons au terme de cette interview. Merci beaucoup, Monsieur Sist, pour votre disponibilité, pour vos réponses expertes.
Mais je vous en prie. C'est fou, un plaisir.
En résumé, vous défendez une gestion durable des forêts tropicales. Les exploiter de manière encadrée peut aider à les préserver, à condition de les valoriser au profit des populations locales.